بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. Louons Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés de cette assise, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits. Cheikh rahimahullah ta'ala, Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi, nous a détaillé d'une façon simple et agréable le sujet du destin, comme tous les sujets qu'il traite rahimahullah ta'ala. On rajoutera tout simplement ici, surtout avec ce que subit le monde actuellement, dans cette situation où le monde ne sait plus vers où s'orienter face à ce virus qui a atteint le monde. Je rajouterai ici que la foi ou le destin implique le fait d'avoir la certitude sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété sans polémique et sans contestation. Tout ce qui arrive, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, l'a décrété, et tout est écrit dans l'origine du livre qui est Lawh al-Mahfouz. Et le destin d'Allah, il est azali. L'azali veut dire ancien, qui n'a pas de début ni de fin, comme il est abadi, c'est-à-dire il est éternel sans fin. Le présent, le passé, le futur, ça c'est pour nous et pour les créatures tout simplement. Mais cet univers et tout ce qu'il contient parmi les choses que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas, tout est apparent et dévoilé pour le Seigneur subhanahu wa ta'ala, pour le Seigneur du monde. Rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Quant au passé, au présent, le futur, ainsi que l'espace tel que nous le connaissons, ici-bas, ceci, c'est pour nos autres créatures. Mais Allah, c'est le créateur des cieux, des terres, et de ce qu'il y a entre les cieux et la terre. C'est le créateur du soleil, de la lune, des astres, des océans, des déserts. Et la création du soleil et de la lune ne donne à nous, êtres humains, et à nos autres créatures, la nuit, le jour, c'est-à-dire le temps. Et la création des cieux et de la terre nous donne à nos autres créatures l'espace, comme on le connaît avec les directions nord, sud, est, ouest, et ainsi de suite. Et tout ceci, c'est la création d'Allah, Azza wa Jal. Et c'est une organisation qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a parfaite pour nous autres. Quant au Seigneur des mondes, c'est le créateur de tout cela, et il sait tout de sa création, globalement et en détail. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et il l'a toujours su, à jamais. Et son savoir n'est pas précédé par une ignorance. Il ne subit pas l'oubli non plus. Allah, donc, sait tout de ses créatures et de leurs actes. Et cela, c'est ce qu'a détaillé Cheikh, rahmatullah alayh, dans le premier degré de la foi en le destin. C'est que nous devons savoir qu'Allah sait tout ce que tu vas faire avant que tu le fasses, et ce que tu vas être avant que tu sois. Il sait tout, il l'a toujours su à jamais. Wa qawluhu azza wa jalla alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wa ma fi al-ardi inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Dire la traduction approximative du sens du verset dit ceci: n'as-tu pas vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et ceci est écrit dans un livre, et ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset contient au niveau du destin le degré du savoir ainsi que celui de l'écriture, que tout est écrit et que tout rentre dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire que tout est écrit contient quatre formes du destin en lequel il faut croire. L'écriture des destins contient quatre formes de destinés ou de prédestinés auxquels il faut croire. Le destin que les hommes de science appellent « taqdir al-azali », c'est-à-dire l'ancien qui n'a ni début ni fin, la prédestinée qui n'a ni début ni de fin, qui est « taqdir al-azali ». C'est-à-dire, avant la création des cieux et de la terre, Allah a créé le crayon et lui a dit « crie le destin de toutes les choses ». Et ceci, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc il est obligatoire de croire en cette écriture du destin que les hommes de science appellent « at-taqdir al-azali », c'est-à-dire la prédestinée ancienne, hein, qui n'a ni début ni fin. Et donc, et tout ceci est écrit dans la planche préservée. Et que ceux qui ne croient pas disent ce qu'ils veulent. Cela veut dire que, à l'apparition de ce mal qui fait du mal et qui a bouleversé le monde, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il est écrit, quand il va arriver, c'est la cause avec laquelle il va exister, tout est écrit, avant qu'il existe, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et donc ça, c'est taqdir al-azali, l'ancien, la prédestinée ancienne qui n'a ni début ni de fin. Wa na'ti ila al-amr al-thani fa huwa taqdir al-umuri, la prédestinée de la vie. Au moment où la vie est donnée à la goutte du sperme dans les matrices, comme il est stipulé dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le hadith du Sadiq al-Masdouq, قال رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والحديث متفق عليه. Donc en ce qui concerne la prédestinée de la vie, c'est ce qui est contenu dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud que Allah subhanahu wa ta'ala agréé, qui a dit que le messager, que le véridique qui n'a dit que la vérité, qui est le messager alayhi salatu wassalam, a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, l'un d'entre vous se constitue, sa création se constitue dans le ventre de sa mère 40 jours en tant que goutte de sperme, puis 40 jours en tant que caillou de sang, puis 40 jours en tant que morceau de chair. Et après, l'ange est envoyé pour souffler l'âme dans ce fœtus. Et l'ange est ordonné d'écrire 4 mots. D'écrire son destin, d'écrire d'abord sa subsistance, qu'est-ce qu'il va être de sa subsistance, sa vie, combien il va vivre, ses actes, est-ce qu'il va être malheureux ou heureux. Tout ceci sera écrit. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, quelqu'un parmi vous œuvre avec les œuvres du paradis. Mais il est écrit dans le destin azali, comme quoi il fait partie des gens de l'enfer. Et à ce moment-là, il va œuvrer à la fin de sa vie. Au moment où il lui reste peu pour arriver au paradis, il va faire les œuvres des gens de l'enfer, il va rentrer en enfer. Et quelqu'un parmi vous va faire les œuvres des gens de l'enfer, et quand il restera que peu de temps pour y arriver, comme il est écrit dans la planche préservée qui sera parmi les gens du paradis, il fera les œuvres des gens du paradis, et il sera parmi les gens du paradis. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Cette écriture à cette écriture du destin, qui est stipulée dans le hadith, a lieu une fois dans la vie d'un être humain. Au moment où l'ange vient souffler l'âme, dans les matrices de cette, dans les matrices de la femme enceinte. Et cette prédestinée est prise tout simplement de l'origine écrite dans le Lawh Mahfouz. Ce n'est qu'une copie de ce qui est écrit dans la planche préservée, dans ce qui a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Hein? Donc rien de nouveau, tout est écrit à la base. At-Taqdir al-Hawli, et nous avons la troisième composition de ce destin, comme l'ont composé les hommes de science, la prédestinée annuelle, de ce qui va se passer dans une année. Ceci a lieu chaque nuit du destin, du mois de Ramadan. Chaque année, il a lieu cette prédestinée annuelle. Il est dit concernant le verset, concernant ce taqdir hawli, ou cette prédestinée annuelle, fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est-à-dire, la traduction approximative du sens du verset, durant la nuit du destin, est décidé tout ordre fait à la perfection. Tout ordre perfectionné est décidé à ce moment-là. Ceci aussi, cette prédestinée annuelle, c'est tout simplement une copie de ce qui est écrit dans Lawh Mahfouz 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. C'est-à-dire, c'est une copie de ce qui va se passer durant cette année-là. Et tout ça, son origine, il est toujours dans la mer du livre qui est Lawh Mahfouz. Et comme il est dit dans le hadith, dans la parole d'Abdullah ibn Abbas, il dit cette copie, c'est-à-dire la prédestinée annuelle, il dit dans cette copie, il y a des noms, les noms de tous ceux qui vont faire leur pèlerinage cette année-là, tous ceux qui vont faire leur omra, tous ceux qui vont être élevés, tous ceux qui vont être déshonorés, ceux qui vont être pauvres, ceux qui vont être malades, et ainsi, tout sera dans cela, ceux qui vont naître, ceux qui vont mourir. Donc tout ce qui va se passer durant cette année-là. Donc cela veut dire pour nous, dans notre croyance en la foi, que la nuit du destin de l'année dernière faisait partie du destin qui doit arriver cette année, la naissance de ce virus. Et la quatrième prédestinée, c'est la prédestinée quotidienne, at-taqdir al-yawmi. C'est l'accomplissement du destin à son heure. Ce qui doit s'accomplir durant la journée, durant son heure, va s'accomplir à ce moment-là. Et toute cette partie citée par les hommes de science, que ce soit la prédestinée de la vie, ou celle de annuelle, ou celle journalière, la quotidienne, tout vient de l'original, qui est écrit dans Lawh Mahfouz. Et concernant la prédestination quotidienne, il est dit dans le verset « Kulla yawmin huwa fi sha'n ». Ça veut dire « Il accomplit le destin de chaque jour, subhanahu wa ta'ala ». Et donc, il a foi en le destin, comme l'a détaillé le Cheikh rahmatullah alayhi, obligatoire que cette foi contient les degrés qu'il a cités, rahimahullah. Que la science d'Allah cerne tout et rien n'échappe à la connaissance d'Allah, et que tout est écrit dans Lawh Mahfouz 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et de croire que rien ne se fait sans la volonté d'Allah, et sa volonté subhanahu wa ta'ala est absolue, et de croire aussi qu'Allah a créé toutes les créatures ainsi que leurs actes et ce qu'ils font. La foi, comme l'a détaillé Cheikh rahmatullah alayhi, comme il l'a expliqué, n'est pas en contradiction avec le fait que l'être humain a une volonté dans ses actes délibérés. Il n'est pas non plus en contradiction avec le pouvoir de l'être humain, car la législation prouve que l'être humain est bel et bien doué de volonté et de pouvoir. Et dans le verset que Cheikh rahmatullah alayhi a cité, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ. Dans le verset que Cheikh a cité, rahmatullah alayh, il y a la confirmation de la volonté d'Allah, il y a aussi la volonté du serviteur. Si Allah voulu, il ne l'aurait pas fait. C'est-à-dire les gens ne l'auraient pas fait. Et concernant le décret de l'écriture, certaines personnes ont dit confusion à ce niveau-là. Ils ont dit que cela, si tout est écrit, ceci est une contrainte. Le fait que la personne accomplisse ce qui a été écrit dans Lawh al-Mahfouz, hein, c'est une contrainte. C'est du domaine de la contrainte, de le contraindre à faire quelque chose. Et ils n'ont pas su faire la différence entre ce que la personne subit et ce qu'il fait délibérément. Allah sait ce que tu vas faire délibérément avec ta volonté et ton pouvoir et tes capacités qu'il t'a confirmé. Donc tu l'accomplis et Allah sait ce que tu fais avant que tu le fasses. Et tout ceci est dans la science d'Allah. Et il est écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ton acte s'accomplit conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait et conformément à ce qui est écrit dans le Lawh al-Mahfouz, sans qu'Allah soit injuste envers toi. Allah Azza wa Jal est exemple de l'injustice. Allah est le plus clément des cléments et le plus juste des justes. Et donc ce que tu as fait, tu l'as fait avec la volonté d'Allah, avec la volonté que Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé et avec le pouvoir que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Dans toute chose et dans tout acte que tu fais délibérément, ceci dépend de ton choix et de ta volonté, et tu en seras jugé. Sinon Allah, si Allah te contraint à la foi, et contraint le mécréant à la mécréance, et s'il te récompense pour la foi sur laquelle il t'a contraint, ceci est absurde. Et Allah est exemple de l'absurdité, subhanahu wa ta'ala. Et s'il te craint, te contraint à la foi, il te récompense. Allah est exemple de ce genre de situation qui est une situation absurde, subhanahu wa ta'ala. Et il contraint le mécréant à la mécréance et il le châtie pour ça. Ça, c'est de l'injustice. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est exemple de l'injustice, subhanahu wa ta'ala. Et cela, c'est une accusation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'être injuste dans le premier cas, accusé et aussi. C'est accuser Allah subhanahu wa ta'ala d'être injuste et l'accuser d'absurdité aussi. C'est une situation qui est très grave. Et ceci, l'absurdité, l'injustice, ce sont des défauts. Ce sont des défauts et des diminutions. Et Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute diminution, de tout défaut. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on croit en la volonté absolue d'Allah, sans laquelle rien ne peut arriver dans cet univers, subhanahu wa ta'ala. Rien ne s'accomplit sans sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Et il est obligatoire pour nous, pour accomplir ce pilier dans le destin, dans la foi en le destin, de dire, croire en ces quatre choses, la science, l'écriture, la volonté d'Allah et la création. Que tout rentre dans la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout est écrit avant la création, que rien ne peut arriver sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'évolue et que tout Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures et leurs actes. Les actes des créatures sont de trois sortes. Un acte que la créature subit. Et celui-là, l'acte que tu subis, tu n'en seras pas jugé. Sauf seulement si tu en es la cause. Ou si tu te rebelles et tu contestes le destin d'Allah. Et tu ne l'acceptes pas. Exemple, ce que tu subis par exemple comme maladie au foie à cause de l'alcool, ou au poumon à cause de la cigarette. La personne qui est dans ces situations-là sera jugée pour cela. Parce que c'est lui la cause. Avec le fait d'avoir utilisé des choses que Allah subhanahu wa ta'ala fait illicite. Et la personne peut être atteinte d'une maladie du ventre, par exemple, sans qu'il en soit la cause. Et dans ce cas, s'il patiente, endure et accepte le destin d'Allah, si cette maladie du ventre lui cause la mort, il sera compté comme martyr. Car le messager, alayhi salam, nous a annoncé, parmi ceux, les morts aux martyrs, le fait de mourir avec une maladie du ventre. Mais maintenant, s'il subit cette maladie, et il n'en est pas la cause, et ne patiente pas et conteste le destin d'Allah, ben il sera jugé. Hein? Il sera jugé pour sa contestation et peut-être il en sera châtié si Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Hein? Il sera jugé pourquoi? Pour sa rébellion. Hein? Et pour sa contestation du décret d'Allah. La deuxième sorte d'acte des serviteurs, ce qui t'arrive, c'est comme ce que tu subis. Ce qui t'arrive, c'est comme ce que tu subis. Allah ne te jugera pas là-dessus, sauf si tu contestes le destin, tu contestes le destin d'Allah. Tu sais que tu es un grand schtroumpf dormeur, tu as un sommeil lourd, hein? Rien ne te fait, hein? Tu sens rien du tout quand tu dors, hein? Ton sommeil est très lourd. Et tu vas dormir sur une pente glissante, et tu tombes du haut de la falaise. Hein? Pourtant, c'est quelque chose qui t'est arrivé. Hein? Mais comme tu en es la cause, tu seras jugé pour ça. Et si la personne conteste ce qui lui arrive, même s'il n'en est pas la cause, comme le fait de descendre l'escalier et de se fouler par exemple la cheville, s'il conteste, ben il en sera jugé. Hein? Il en sera jugé. Parce qu'il t'est demandé d'accepter ce que tu subis et de ne pas contester le destin d'Allah, Azza wa Jal, parce que la chose qu'il doit t'atteindre, il va t'atteindre, hein, que tu le veuilles ou non. Donc, il va être jugé pourquoi? Pour sa rébellion et sa contestation du destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais s'il se soumet à Allah, subhanahu wa ta'ala, il se soumet à Allah, subhanahu wa ta'ala, il implore Allah, subhanahu wa ta'ala, pour cela, pour ce qui lui est arrivé, il en sera récompensé. L'acte que fait la personne, la troisième forme d'acte, c'est l'acte que fait la personne délibérément. C'est sûr ça, qu'il sera jugé, et tout individu sait faire la différence entre ce qu'il subit et ce qu'il fait délibérément. L'être humain fait la différence entre le fait d'être éprouvé par la maladie du fait que l'urine coule tout le temps, et ça dépend pas de sa volonté, et du fait d'être éprouvé par exemple par le gaz qui n'arrive pas de sortir, ou la maladie de la sortie du gaz constamment, il ne peut pas le contrôler. Et ça, il sait que ça, indépendamment de sa volonté, et le fait de le faire quand il en a besoin, il sait faire la différence entre les deux. Si maintenant, lors d'une nuit glaciale, l'envie d'uriner prend la personne. Et vu qu'il fait très froid, il le fait sur lui-même dans son lit. Hein? Ça, c'est un acte qu'il a fait délibérément. C'est pas comme celui qui a la maladie et que ça coule tout le temps sur lui. Ça goûte tout le temps, etc. Hein? Et tout individu sait faire la différence entre le fait de se jeter du toit de la maison et le fait de glisser en descendant les escaliers. Hein? Donc l'être humain, il sait faire la différence entre l'acte qu'il subit et l'acte qu'il fait délibérément. Donc il y a des choses que nous choisissons de faire et des choses que nous subissons. Et notre devoir, c'est que nous devons nous soumettre et accepter le destin d'Allah sans contestation dans tout ce que nous avons subi. Donc impossible que la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala soit quelque chose que nous subissons. Abadan. C'est impossible que la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des choses que nous subissons. Car il y a deux points ici auxquels il faut faire très attention. Si tu le maîtrises, tu le comprends, tu seras à l'aise dans le destin. L'irada shar'iyya ou l'irada al-kawniyya. Ces deux points sont la volonté d'Allah universelle, ce qu'il veut dans l'univers, et la volonté législative, ce qu'il veut comme religion et qu'il a instauré comme loi, etc. Donc il y a deux volontés. la volonté de ce que voit Allah subhanahu wa ta'ala comme chose créée dans cet univers, hein, ce qu'ils ont, les hommes de science appellent ça l'irada shar'iyya, la volonté universelle, et l'autre qui est la volonté religieuse, hein, qui concerne la législation que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. La volonté universelle, ce qu'Allah veut, son existence dans cet univers, alors qu'il ne l'aime même pas, il ne l'agrée pas. Et ceci arrive avec la volonté d'Allah, il s'accomplit avec la volonté d'Allah. Car rien ne peut exister dans cet univers si Allah ne le veut pas. Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime, là il l'aime, hein, mais il existe. Il rentre dans cette volonté universelle, hein. Est-ce que la mécréance qui s'accomplit sur terre et qui s'accomplit dans ce bas monde, hein, s'accomplit en dehors de la volonté d'Allah? Ou s'accomplit parce que Allah l'a voulu, parce qu'il rentre dans la volonté d'Allah? Il ne sort pas de la volonté d'Allah. Mais malgré qu'il ne sort pas de la volonté d'Allah, Allah ne l'aime pas. Allah n'aime pas que la mécréance soit accomplie. Hein? Et selon, mais il s'accomplit selon le choix de l'individu. Hein? Et le choix de l'individu et sa volonté dépendent de la volonté d'Allah. قال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Donc il y a un choix. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, celui qui veut qu'il croit et celui qui veut qu'il mécroit. Donc il y a un choix que la personne fait. Hein? Il y a une volonté de la personne. Hein? Si l'individu choisit la mécréance, Allah a voulu cette mécréance qu'il n'aime pas subhanahu wa ta'ala et qu'il n'agrée pas subhanahu wa ta'ala dans son univers. Et subhanahu wa ta'ala, il ne leur donne pas. Et il a averti d'un grand avertissement contre cette mécréance. Quant à la volonté législative ou la volonté religieuse, c'est celle qu'Allah aime et agrée. L'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam, l'amour des prophètes, l'amour des messagers alayhi salatu wassalam, l'amour de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et de tout ce que son messager aime et agrée, et le fait de détester tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, et de détester tout ce que son messager déteste. Hein? Ça, c'est la volonté législative qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Beaucoup de gens justifient le fait de ne pas prier par le destin. Tu dis, m'ktoub, hein? Comme ils disent, dis frère, pourquoi tu pries pas? Hein? Pourquoi tu pries pas? Il te répond, Allah a décidé que je ne prie pas, c'est le m'ktoub. Donc il justifie le fait de ne pas prier par le destin. Cette justification est irrecevable. Hein? Il est irrecevable à ce niveau-là, au niveau de la désobéissance. Hein? Ni la raison l'accepte, ni la législation, ni la réalité de la vie de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et dire c'est le mktoub. Voler les gens et c'est le mktoub. Abadan. يقول عز وجل سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. Il dit dans le verset, les associateurs diront, si Allah l'avait voulu, on ne serait pas associateurs, on n'aurait pas associé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, pourquoi? Pour accomplir les preuves. Comme il est dit dans le verset, Rasulan, mubashirina, wa mundirin, li alla yakuna lil nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Il a envoyé des prophètes et des messagers comme annonciateur et avertisseur, pour que les gens n'aient aucune preuve devant Allah. Aucune excuse. Hein? Les messagers sont passés, ils ont averti, ils ont annoncé, ils ont orienté, ils ont conseillé. La preuve est accomplie. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait la désobéissance, l'obéissance avec laquelle l'être va quitter ce bas monde. Il le sait subhanahu wa ta'ala. Allah sait ce qui existe avant qu'il existe. Et ce qui va exister, comment et quand il existera. Tout ça n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, quand il a envoyé Moussa chez le Khadr pour apprendre avec le Khadr, le Khadr a arraché la tête d'un gamin. Et à la fin, il a annoncé à Moussa le but de son acte, que ce gamin, si il restait en vie, il va rendre la vie difficile à ses parents. Et peut-être qu'il va les rendre mécréants. Il va leur rendre la vie, une vie difficile. Hein? Comment il l'a su le Khadr? Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir. Hein? Donc Allah sait ce qui va exister et comment il va exister. Rien n'échappe à la science d'Allah. Hein? Donc il a ordonné à le Khadr de tuer ce gamin parce que ce gamin, il est inscrit comme quoi il va, s'il vit, ah, ses parents vont vivre les cauchemars dans leur vie. Donc la science d'Allah est complète, cerne tout, il n'a pas été précédé par l'ignorance, ni il sera atteint par l'oubli. Il n'est ni limité par le temps, ni limité par l'espace. Abadan. Et nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Après cet instant-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va prier l'Isha ou là on ne priera pas? Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière le mur là-bas. Le mur là derrière, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Hein? Nous sommes limités au niveau de notre savoir, dans le temps et dans l'espace. Alors que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est complète et Allah a défini à chacun des êtres humains sa place au paradis ou sa place en enfer. Tout est défini. Hein? Car il sait tout de sa créature, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne lui échappe. Comment Allah va contraindre un être humain à un acte pour lequel il va lui demander des comptes, alors que si l'être humain fait un péché, ou tombe dans la désobéissance, par ignorance, par contrainte, ou par oubli, il sera excusé. Hein? Donc, celui qui est contraint à faire quelque chose, Allah ne le jugera pas pour ce qu'il a fait sous la contrainte. Abadan. Comment on peut dire ou penser qu'Allah contraint l'être à faire ce qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas et puis il va le juger là-dessus? Ceci est le faux le plus flagrant et il est recevable. Donc celui à qui il est dit prie, il ne prie pas, celui-là ne connaît pas le destin. Ne connaît pas le destin. Il le connaît une fois qu'il n'a pas prié. Car il ne sait pas avant que le destin se réalisera. Hein? Il ne sait rien. Le destin, il ne le sait pas. Tu dis prie, tu ne pries pas. Hein? Ça, c'est à quel moment tu sais que tu n'as pas prié? Oh, tu n'as pas prié. Au moment que tu n'existes pas, tu n'exécutes pas l'ordre. Avant? Ben non. Avant, tu ne le savais pas. Le destin, c'est le secret d'Allah, que personne ne connaît. Et l'être humain justifie ses manquements et sa désobéissance par le destin, alors qu'il ignore le destin. Il ne sait rien du destin. Il ne le connaît pas. Hein? Il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Il le sait qu'une fois que le destin se réalise. Mais avant, il ne le sait pas. Donc la volonté de l'être humain, de ne pas prier, devance le destin qui n'est pas encore réalisé. La volonté de la personne de ne pas vouloir faire la prière a devancé le destin, parce que le destin ne s'est pas encore réalisé. Donc comment dans ce cas, prendre le destin comme justificatif à ce manquement et à cette désobéissance? Hein? Regarde maintenant dans ce bas monde. Hein? Si tu présentes à l'être humain sur la table un melon, une colocante. Tu vois la colocante et le melon, certains melons ressemblent à la colocante dans leur forme et dans le dessin sur lequel il y a. La colocante, il est amer. Juste tu touches, l'amertume restera avec toi et à la tif. Mais la personne, tu lui mets ça sur la table, il va prendre le melon. Hein? Et il laissera la colocante. Hein? Et pourquoi il n'a pas choisi la colocante? Comment dans ces cas-là, il choisit la mécréance ou la désobéissance et la négligence et délaisse les obligations de Allah subhanahu wa ta'ala ou délaisse la foi, délaisse l'obéissance et dit c'est le mktoub? Pourquoi il ne mange pas la colocante, il dit c'est le mktoub? Hein? C'est le destin doit être cité seulement. Quand est-ce qu'on doit citer le destin? On doit citer le destin au moment de subir un malheur ou une catastrophe. Et non pas, on ne doit pas le mettre en avant quand on a commis et quand on est dans la désobéissance, quand on a commis un mal et un péché. Hein? Pour le mal, pour le péché, on doit se repentir à Allah. Hein, on doit se repentir à Allah et ne pas se justifier avec le destin. Et quand on subit un malheur, on dit qaddar Allah wa ma sha'a fa'al ou qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand on subit un malheur, on fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qu'il veut. Hein, c'est le destin d'Allah et Allah fait ce qu'il veut. Nous sommes à Allah et nous allons revenir à Allah. Voici notre position devant le malheur. Mais devant la désobéissance, c'est de se repentir, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui est fataliste, qui est jabri, c'est facile d'anéantir sa preuve. Il prétend qu'il me croit ou désobéit, il dit le maktoub. Gifle-le. Et s'il proteste, dis-lui, frère, c'est ce qu'Allah t'a destiné. Je t'ai giflé par destin. Hein? Regarde s'il va accepter. Hein? Prends-lui sa fortune. Prends sa femme. Ou là, hein, ses biens, etc. Tu verras et tu lui dis ça, c'est le destin. Je me suis accaparé de tes biens. C'est le destin. Il va accepter. Hein? Pourquoi il met en avant le destin pour la désobéissance à Allah Azzawajal? Donc le fait d'accomplir la foi en le destin, comme Cheikh Rahmatullah alayhi l'a détaillé, cela prodigue à la personne la satisfaction et la soumission à la volonté d'Allah. Quand l'être humain utilise les moyens et fait des efforts pour arriver à quelque chose et qu'il n'y arrive pas, sa foi en le destin fera qu'il se soumettra à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera serein, il sera apaisé et il acceptera. Il a mis tous les moyens qu'il peut pour arriver à son but. Il n'y est pas arrivé. Il sait que s'il ne l'a pas eu, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas voulu pour lui. Ou que ce n'est pas un bien pour lui. Ou que ce n'est pas le moment. Donc, sa foi au destin le pousse à accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et à être apaisé et à être tranquille. Sans diarrhée mentale. Hein, et sans tracasserie. Car il sait que rien n'arrive sans la volonté d'Allah azza wa jalla. En conclusion de ce pilier de la foi en le destin, voici une compilation de certaines paroles concernant ce qui arrive maintenant, ce que le monde subit sur Corona. Ce Corona, comme disent certains, n'est pas venu pour tuer et pour nous tuer et nous exterminer. Pour nous autres soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ce corona est venu pour réveiller la conscience de la communauté. Il est venu pour nous sortir de notre insouciance et de nous faire réveiller, de voir où sommes-nous dans l'accomplissement de la religion d'Allah. Il est venu pour nous faire prendre conscience de notre faiblesse et de notre incapacité. Nous sommes incapables de voir ce petit virus à l'œil nu. Que ce petit truc qui ne se voit pas menace le monde entier. Et cela te prouve la faiblesse devant laquelle on est et l'incapacité dans laquelle est l'être humain. Ce virus est venu pour nous sortir de l'insouciance dans laquelle nous sommes concernant l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur Tout-Puissant, qui est capable de tout subhanahu wa ta'ala. Et il est venu pour qu'on voit où sommes-nous, pour réfléchir, où sommes-nous de la religion d'Allah, où sommes-nous du fait d'accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sincérité et dans le suivi. Hein? Et pour nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout et qu'on a un clin d'œil, il peut nous faire disparaître et faire apparaître d'autres qui lui seront soumis comme il se doit subhanahu wa ta'ala. Une petite chose qui ne se voit pas à l'œil nu a fait paniquer le monde entier. Hein? Le monde entier, avec ses usines, avec ses armées, avec son industrie, avec sa technologie. Il ne peut rien faire. Il est paralysé. Il ne peut rien faire devant cette chose qu'il n'arrive même pas à voir, hein, à l'œil nu. Hein? Regarde. Les gens ne cessent de parler. Les médias, tout le monde est occupé par cela. Alors, nous autres croyons. On croit que ce virus avec lequel le monde est éprouvé, hein, c'est un avertissement min Allah Azza wa Jal. C'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala au début a éprouvé avec ceux qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas. Hein? Et on disait à ce moment-là, oui, ils subissent ce virus parce qu'ils maltraitent les musulmans, ils maltraitent les minorités musulmanes. Allah les a éprouvés avec un petit soldat parmi ces soldats, et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît ces soldats subhanahu wa ta'ala. Ce virus leur a fermé les écoles, les usines, il leur a fermé les lieux de culte, et là, etc. Et on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Et ce virus, il nous a fait quoi à nous? Hein? Ce virus a été la cause que l'une des plus grandes adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala soit arrêtée à certains moments de la journée et de la nuit sur la terre qu'Allah aime. Hein? Le tawaf, hein? La umrah, etc. Ce virus a été la cause pour que ceci s'accomplisse. Hein? Et pour qu'il s'arrête à un certain moment de la journée, pendant un laps de temps, hein? De la journée. Et est-ce qu'on se rend réellement compte de la situation? Est-ce qu'on se rend réellement compte de cette énorme catastrophe qui est arrivée? C'est tout simplement, comme l'ont dit certains nombres de sciences, Corona a stoppé tout simplement Tawaf pour quelques heures, ça ne suffit comme malheur et comme catastrophe. Et avec tout cela, on est comme si de rien n'était. Les gens s'échangent les nouvelles concernant la fermeture des deux mosquées, la Mecque et Médine, dont à certains moments de la journée, etc., la fermeture du Tawaf pendant certains moments de la journée et de la nuit, le fait de ne pas pouvoir visiter, s'installer dans le Rawda, c'était cet enclos, cet endroit qui se trouve entre les appartements du prophète alayhi salatu salam et son minbar. Et les gens parlent de ça comme si c'est la fermeture d'un centre commercial qui a été fermé pour une catastrophe, une fermeture momentanée. Hein? Le corona n'est pas une peste pour l'humanité, comme l'ont dit certains. C'est nous la peste sur terre si on ne se repent pas et si on n'accomplit pas, on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à sa religion. Hein? Et si on n'accomplit pas ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers sa religion comme il veut, hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous changera et ramènera d'autres qui vont lui être soumis comme il veut subhanahu wa ta'ala. Ce corona ne réveille pas notre insouciance et notre conscience vis-à-vis de notre religion et de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est très dangereux pour nous. Si on ne se réveille pas avant que ça soit trop tard, ceci est une situation catastrophique pour nous. Un simple virus a rendu le monde insomniable. Qu'est-ce qu'il en est du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de ce virus? Qui est le Seigneur de cet univers et ce qu'il contient? Donc c'est ceci ne donne pas une onde de choc très forte pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nos cœurs sont devenus des cimetières. Je ne dirais pas qu'ils sont morts, ce sont devenus des cimetières. Parce que la leçon est énorme. فعودة إلى آخر فقرة في رسالة الشيخ et on revient vers le dernier paragraphe de la رسالة du Cheikh رحمة الله عليه. يقول أهداف العقيدة الإسلامية, c'est-à-dire les objectifs de la croyance musulmane. الهدف لغة يطلق على معاني منها الغرض ينصب ليرمى إليه وكل شيء مقصود. وأهداف العقيدة الإسلامية مقاصدها وغاياتها النبيلة المترتبة على التمسك بها, وهي كثيرة متنوعة. فمنها أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده لأنه الخالق لا شريك له, فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانيا تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة, لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط, وإما متخبط في ضلالات وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا الراحة النفسية والفكرية, فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر, لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه سبحانه وتعالى فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا, فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى ومعاملة المخلوقين, لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقة ذات السلامة في القصد والعمل. خامسا الحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه رجاء للتواب, ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب, لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. قال عز وجل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية في قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى الإمام مسلم رحمه الله, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن لي لا فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان. سادسا تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوقيض دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل الله. وفي هذا يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سابعا الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات. وفي ذلك يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول رحمه الله هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية، نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. Donc dans ce dernier paragraphe, il dit رحمة الله عليه les objectifs de la croyance musulmane. الهدف en arabe a plusieurs significations. Il veut dire la cible qu'on vise. Il veut dire aussi le but que l'on se fixe, vers lequel on aspire. Les objectifs de l'aqida islamique, ce sont des nobles buts. Et il est obligatoire de se cramponner à cette aqida islamique. Et ces objectifs sont nombreux. Voici certains de ces buts et de ces objectifs. Le premier but, ou là, le premier objectif, la sincérité dans l'attention et les œuvres. C'est-à-dire que les œuvres, ils doivent être voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et le cœur doit être orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est le seul et unique créateur sans associé. Donc il est obligatoire que l'intention et le culte lui soient exclusivement réservés. Le deuxième but, la libération de l'esprit, de la raison, de l'anarchie qui découle de l'absence de cette aqida dans le cœur. Il libère l'esprit, hein, et la raison de cette anarchie et de cette diarrhée mentale dans laquelle patauge certains. Car celui dont le cœur est dépourvu de cette aqida, son cœur est vide de toute croyance et adore uniquement le matériel, ou alors ils sont en train de patauger dans les ténèbres des autres fausses croyances et dans les superstitions qui n'en finissent pas et dans les histoires à dormir debout. Le troisième but de cette aqida islamique, c'est donner la quiétude psychique et spirituelle à l'être humain. Et c'est épargner à l'être humain les inquiétudes et les troubles de l'esprit et de la pensée. Car cette croyance lie le croyant avec son créateur subhanahu wa ta'ala. Et il agrée son seigneur, et il l'agrée comme seigneur, et comme administrateur de toutes choses, et comme juge et législateur. Ainsi le cœur du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala s'apaise face à son destin, et son cœur s'épanouit dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne désirera jamais changer sa religion et sa soumission pour autre chose. Hada, ce sont les bienfaits et les objectifs et les buts de cette aqida islamique. Donc le quatrième but, l'immunité de l'intention et de l'œuvre contre la déviation et contre les innovations dans l'adoration qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala ou dans les rapports qu'on a avec les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car parmi les piliers de cette aqida, la croyance en les prophètes et les messagers alayhim salatu wassalam, qui rendent obligatoire le fait de les suivre et de suivre leur orientation et d'être conforme à leur voie. Hein? L'occurrence pour nous d'être conforme à la voie du messager alayhim salatu wassalam. Hein? Et ce suivi du messager alayhim salatu wassalam caractérisé par quoi? Il a une caractéristique spécifique. L'immunité de l'intention et des œuvres, ça t'emmène à accomplir les œuvres conformément à ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu travailles ton cœur, de les vouer exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième but, la résolution et le sérieux dans les situations de manière à ne pas rater une occasion pour accomplir le bien, pour obtenir les récompenses d'Allah. Ça, c'est l'un des buts aussi de l'aqida authentique. Hein, et l'un de ses objectifs. Et aussi, elle éloigne de tout lieu où l'on commet les péchés, par crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Car parmi les piliers de cette aqida, hein, et parmi ses fondements, il y a le fait de croire en l'invisible, et de croire à la résurrection, et de croire au châtiment de la tombe, au délice de la tombe, au jour de la rétribution. Les comptes vont être faits et chacun sera, hein, rétribué selon ce qu'il a fait comme œuvre. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, « Et chacun son rang sera selon ce qu'il a accompli comme œuvre. » Et ton Seigneur n'est pas inattentif. Parce qu'ils font. Hein? Ça, c'est la aqida. Il t'emmène vers cela. Et le messager, alayhi salatu salam, a encouragé cet objectif. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, où il a dit, alayhi salatu salam, le croyant fort et meilleur et plus aimé chez Allah, azza wa jalla, que le croyant faible. Et il y a du bien dans les deux, dans chacun d'eux, dans le faible et dans le fort. Attache-toi, il a dit, alayhi salatu salam, à ce qui va t'être bénéfique. Et implore l'aide d'Allah et ne sois pas paresseux. Ne sois pas fainéant. Accompli. Et s'il t'arrive un malheur ou un mal, ne dis pas si j'avais fait cela, il y aura cela, ou il y aura ceci ou cela, là. Hein? Dis plutôt, c'est le destin d'Allah, et Allah fait ce qu'il veut, car si déclenche les œuvres de Shaitan, là où déclenche les œuvres de Shaitan, il t'envoie à perpète. Hein? Le sixième but, le sixième objectif, c'est l'édification d'une communauté puissante qui fait tout ce qu'il peut pour consolider sa religion et affermir ses piliers sans se soucier de ce qu'il subit dans cette voie-là. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, et puis ne doutent pas et qui luttent avec leur bien et leur personne sur le sentier d'Allah. Le septième objectif de cette aqida, l'obtention du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà, par la réforme des individus et par la réforme des sociétés et l'obtention des récompenses et des gratifications d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci, ce sont des objectifs de cette aqida. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, on est en croyant, à la condition d'être croyant. Nous le ferons vivre une bonne vie, et nous le récompenserons certes mieux, nous les récompenserons certes mieux que ce qu'ils ont accompli. Il dit, rahmatullah alayh, c'était là une présentation de quelques objectifs de la croyance islamique. Nous implorons, il dit, rahmatullah alayh, nous implorons Allah de les concrétiser pour nous ainsi que pour tous les musulmans. Amen. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il couvre cher de sa sainte miséricorde et que ce qu'il a écrit nous soit bénéfique. Hein? Et je veux qu'on se rappelle le bien avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a comblés subhanahu wa ta'ala avec cette religion complète. Hein? Cette religion, si on l'accomplit selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, nous aurons la suprématie, les honneurs. Regarde, Akhi, la stabilité de la pensée et de l'esprit dans laquelle nous installe notre soumission à Allah Azza wa Jal. Il y a plus de 2 semaines, les plus hautes autorités de ce pays déclarent que le fait de ne pas serrer la main aux femmes, c'est un signe de radicalisation. Ne pas faire la bise à ses collègues au travail, c'est un signe de radicalisation. Se couvrir le visage est un signe de radicalisation. Aujourd'hui, dans la loi des hommes, qui versatilise selon les intérêts, aujourd'hui, ces signes de radicalisation sont recommandés. Pourquoi ? Pour éviter le coronavirus, soi-disant. Allahu Akbar. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut faire prévaloir ce qu'il veut, il le fait et personne ne sait comment. Regarde ces petites choses qui ne se voient même pas. Comment il retourne les situations. Allahu Akbar. Un de nos frères qui travaille dans une raffinerie pétrolière rapporte qu'un douanier dans la cantine, puisque dans les raffineries, il y a le contrôle des douanes. Hein? Il rapporte que un douanier a fait la bise à un de collègues de travail là-bas, dans la cantine. Et on a rapporté ça à ses supérieurs, et il a reçu quoi? Un avertissement. Il y a un des gens qui travaillent aussi là-bas, c'est arrivé au même jour, hein, a embrassé une de ses collègues, il a reçu un avertissement aussi. Subhanahu wa ta'ala. Gloire à celui qui change les situations comme il veut, et qui tourne les situations comme il veut. Et ceci te prouve, hein, regarde, ce qui était un signe de tolérance, et de courtoisie, et de bienséance hier pour eux, hein, dont cette loi instaurée par les hommes est devenue aujourd'hui un délit à cause d'un petit soldat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur l'humanité. Un petit soldat qui ne se voit pas à l'œil nu. Hein? Et nous devons être conscients de tout cela et remercier Allah subhanahu wa ta'ala et revenir et accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne change. Hein, qu'il nous fasse disparaître et qu'il nous ramène d'autres qui vont accomplir la religion comme il veut, subhanahu wa ta'ala, parce que tout est facile pour Allah. Hein, regarde ce petit soldat, ce qu'il a fait du monde. Hein, l'insoumni qu'il a donné au monde. Falhamdulillah ala ni'mati l'islam. Walhamdulillah ala ni'mati sunnah. ومنهج سلف هذه الأمة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اخرجنا من هذه الديار الكافرة سالمين غانمين سأله سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم من هذه الديار سالمين غانمين سأله سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم من هذه الديار سالمين غانمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا